Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, Elisabeth Lamure, sénatrice du Rhône et présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, conduira une mission sur les entreprises responsables et engagées, puis une rentrée culturelle pour le Théâtre de Glézé qui compte déjà de nombreux abonnés. Valérie Longchambon, adjointe à la culture, fait le point sur ce début de saison. Et en conclusion, avant-propos, en compagnie de Bérangère Guédon, coordinatrice des rencontres du cinéma francophone Villefranche-Beaujolais-Saône sur la 24e édition du festival. Calade, le journal. Devenu un objet dont on peut difficilement se passer, le smartphone voit ses ventes croître de manière fulgurante depuis plus d'une décennie. En 2017, près de 1,5 milliard de smartphones ont ainsi été vendus, soit 2,7% de plus qu'en 2016. D'ici quelques années, le nombre de smartphones pourrait même dépasser celui des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Malheureusement, cette production et consommation de smartphones a des conséquences néfastes sur la planète. Les industries pétrolières et certains modes de transport sont souvent montrés du doigt lorsqu'il est question de conservation et de protection de l'environnement. Mais les nouvelles technologies ont elles aussi une grande part de responsabilité. Une étude conduite par des chercheurs de l'université canadienne McMaster a en effet révélé que d'ici 20 ans, la part des technologies de l'information et de la communication pourrait atteindre jusqu'à 14% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Si les ventes de téléphones portables par million à l'échelle mondiale ont de quoi satisfaire les opérateurs, notre planète, elle, se désole. Car contrairement à leur impact sur la santé, qui divise encore les scientifiques, l'impact des smartphones sur l'environnement ne laisse plus de place à l'interprétation. Malgré leur petite dimension, les téléphones portables dernier cri sont de gros consommateurs d'énergie et de matériaux rares ou toxiques. Tout d'abord, il faut savoir que l'appareil comporte plusieurs centaines de pièces plastiques et métalliques de différentes natures qui émanent de ressources non renouvelables. Ces ressources sont le plus souvent extraites de mines qui ravagent le paysage et polluent l'eau et le sol. Elles sont par la suite purifiées, affinées et transportées. Autant d'opérations énergivores qui produisent des déchets et dégagent du dioxyde de carbone. Ce qui a pour résultat d'accroître l'effet de serre et des gaz nuisibles à la couche d'ozone. Mais c'est la consommation d'énergie qui a la plus importante incidence, car pour recharger la batterie, une connexion du chargeur à un réseau électrique est nécessaire. Or, cette électricité est en grande partie obtenue à partir, encore une fois, de ressources non renouvelables. D'une part, à cause de la difficile dégradation des plastiques qui composent l'équipement, d'autre part, des métaux qui évacuent dans l'eau, l'air ou le sol, des éléments précieux tels que le cuivre, l'argent et l'or, ou très polluants comme le plomb, le mercure, le nickel. Les ravages sont d'autant plus importants lorsque l'appareil est jeté aux ordures ou perdu dans la nature. Il laisse tôt ou tard ces mêmes éléments se répandre progressivement. Elisabeth Lamure, sénatrice du Rhône et présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, conduira une mission sur les entreprises responsables et engagées. Les résultats de cette mission sénatoriale qui débute seront présentés et débattus lors de la journée des entreprises au Sénat en avril 2020. Elle nous accorde tout de suite un entretien.
Alors, c'est une nouvelle mission que l'on a lancée dans le cadre de la délégation aux entreprises que je préside au Sénat depuis sa création, c'est-à-dire depuis fin 2014. Et en dehors des travaux que l'on fait avec cette délégation régulièrement, nous allons sur le terrain pour rencontrer les entreprises. On a évidemment rencontré des centaines, presque sûrement un millier de chefs d'entreprise. On a visité des centaines d'entreprises. Et à chaque retour de ces déplacements, j'ai toujours le même constat. Je trouve qu'on a en France de belles entreprises. On a un foisonnement de petites entreprises qui sont méconnues dans des territoires parfois d'ailleurs improbables. Et on se rend compte à quel point elles sont innovantes et elles sont souvent très engagées, que ce soit en matière sociale ou environnementale dont on va parler. Donc j'ai eu envie d'une mission sur ce thème parce que ces entreprises-là, quelle que soit leur taille, mais surtout les plus petites d'entre elles, on a vraiment envie de valoriser cet engagement.
J'ai lu quelque part que les PME et les ETI en France étaient celles qui étaient les plus créatrices d'emplois.
Ah bien sûr, c'est essentiellement les et même les TPE d'ailleurs. Je pense qu'on est à plus de 95% d'entreprises qui sont moins de 250 salariés, c'est-à-dire qui sont des PME, voire des TPE, c'est-à-dire moins de 10. c'est celles-là qui créent l'emploi, bien sûr. D'abord parce qu'elles sont très nombreuses, ça n'est pas les grands groupes, je dirais presque au contraire. Alors vous avez des groupes qui embauchent, mais bien souvent qui au contraire font des plans sociaux. Donc ces PME sont très importantes, elles sont très importantes pour les territoires, parce qu'elles se trouvent, elles sont installées absolument partout, y compris dans des secteurs assez reculés, mal desservis, mais parce qu'il y a sur place un savoir-faire et une main-d'œuvre.
Alors j'allais en venir là aussi, effectivement la multiplication de ces PME ou de ces moyennes, petites et très petites entreprises, on va dire comme ça, prouve peut-être effectivement toute l'innovation que nous avons et la richesse effectivement de ces entrepreneurs.
À la fois les chefs d'entreprise sont très, très créatifs. C'est ce que l'on constate partout. Ensuite, il s'appuie sur un savoir-faire qui est parfois historique, parfois plus récent, mais un savoir-faire qui s'attache à leur région, à leur territoire, que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Ça veut dire qu'il y a dans ces secteurs-là une main-d'œuvre qualifiée, voire très qualifiée. C'est pour cette raison aussi que les entreprises qui sont installées dans ces territoires-là ne se délocalisent pas, parce qu'elles ont tout le savoir-faire sur place.
Et quand on a la chance aussi d'avoir peut-être des collectivités, effectivement, qui mettent tout en place, effectivement, pour que la jeunesse puisse avoir les formations pas trop loin. On peut aussi engager ce genre de choses sur le territoire, bien sûr, et vous le savez bien.
Oui, ça prouve toute la problématique des formations d'abord adaptées à ce que demandent les entreprises ou les secteurs d'activité qui sont implantés, et puis faire en sorte qu'en effet, les jeunes qui seront formés, le soient pas trop loin de cette base-là, de manière à ce qu'ils ne se dispersent pas près de la ville, parce que c'est tellement, tellement facile, tellement plus facile d'aller proche de la ville, où là encore il y a pléthore d'entreprises, il y a les possibilités de logement, il y a les transports, ce qu'on ne trouve pas dans les territoires les plus éloignés.
Alors peut-être, c'est les prémices je crois effectivement de cette mission, donc est-ce qu'on peut peut-être en avoir un avant-goût? J'imagine que vous êtes en train de le travailler.
Voilà, donc on a commencé à faire une ligne directrice et on va très prochainement, même d'ailleurs dans quelques jours, commencer nos auditions, puisque c'est de cette manière que l'on procède. On auditionne énormément d'institutions, d'entreprises, de responsables, et puis évidemment on se rendra sur le terrain. Donc l'idée c'est que dans ces belles entreprises, quelle que soit leur taille, que l'on rencontre à l'occasion de notre déplacement, on voit que beaucoup se sont engagés. Alors sont engagés au plan social, sont engagés au plan environnemental, sont engagés au plan d'une éthique, jusqu'à une éthique financière. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle évidemment, on parle beaucoup des plans sociaux, on parle des difficultés de telle ou telle entreprise, on parle d'une fermeture et on ne met pas assez en avant tout ce que font les chefs d'entreprise avec leurs équipes, évidemment, dans ce sens-là qui est le sens général. On sent bien qu'il y a aujourd'hui un changement. Donc, en dehors des entreprises de plus de 250 salariés qui maintenant sont en obligation de RSE, eh bien, on trouve beaucoup de petites entreprises qui font de la RSE sans le savoir. Et nous avons eu envie d'en parler et puis de se dire qu'après tout, elles peuvent servir d'exemple. Donc, on pourra utiliser ces exemples-là qui sont multiples, qui sont même très, très nombreux, pour en faire un rapport, pour présenter cela à l'occasion de la Journée des entreprises qui se passera au Sénat au mois d'avril prochain.
C'était Elisabeth Lamure, sénatrice du Rhône et présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, qui conduira une mission sénatoriale sur les entreprises responsables et engagées. Les résultats de cette mission seront présentés et débattus lors de la Journée des entreprises au Sénat en avril 2020. Une rentrée culturelle du Théâtre de Glézé qui compte déjà de nombreux abonnés. Nous sommes en compagnie de Valérie Longchambon, adjointe à la culture et qui fait le point sur ce début de saison.
Oui, la saison culturelle a très bien démarré. Nous avons des spectacles déjà complets. En plus, nous avons mis une billetterie en ligne, donc ça facilite l'accès du théâtre à nos usagers. Bien sûr, cette billetterie, c'est la première année qu'elle fonctionne, donc elle sera améliorée au fil du temps. Mais c'est vrai que nous avons énormément d'abonnés. Il est vrai que les abonnements sont très avantageux. Ça démarre un abonnement à 34 euros pour 3 spectacles jusqu'à l'abonnement passion pour tous les spectacles à 99 euros.
Alors, une volonté effectivement de l'équipe municipale, c'est bien ça, fait plus particulièrement la commission culture, comment dirais-je, d'une programmation éclectique, on va dire.
Oui, nous essayons d'avoir un programme très divers et de grande qualité, toujours avec des compagnies professionnelles de grande qualité. Donc nous avons 18 spectacles, dont 2 qui sont déjà doublés. Ça va du théâtre classique au théâtre plus contemporain, plus d'auteurs, spectacles musicaux et puis également le jeune public et bien sûr les comiques ne sont pas oubliés.
Alors, qu'est-ce qui est plus particulièrement prisé au fil et à mesure de ces années, j'imagine, et de ces saisons programmées? On sent un petit peu le public de Glézé, puis peut-être un petit peu d'ailleurs aussi.
Alors, bien sûr, les spectacles comiques, les spectacles d'humour et un peu plus légers sont souvent très prisés, parce qu'il est vrai que les gens ont besoin de se détendre. Mais nous voulons une programmation aussi qui leur permette d'avoir accès à d'autres spectacles un peu plus pointus, qu'ils ne seraient peut-être pas allés voir. Et quelquefois, quand les spectacles comiques sont complets, notre public se dirige vers d'autres spectacles et en fait après on se rend compte qu'ils sont ravis d'avoir découvert autre chose.
Une programmation vraiment tout public. On s'intéresse aussi à des spectacles jeunesse peut-être.
Oui, bien sûr, les écoles, donc depuis déjà l'année dernière, les écoles assistent à un spectacle jeune public, donc on décide d'une tranche d'âge. Nous avons 3 spectacles dédiés à la jeunesse cette année. Il y a Faites beaux rêves, Le Petit Prince Slam et puis Si grande, si petite.
Des compagnies plutôt de la région?
Alors on essaye d'accueillir des compagnies régionales de préférence, de faire travailler les compagnies qui sont d'ici, surtout qu'elles sont de grande qualité.
C'est difficile parce qu'il y a énormément de spectacles, vous l'avez dit, donc on ne va peut-être pas tout décliner, mais peut-être mettre un accent plutôt sur l'une, sur l'autre, voilà.
Donc comme je vous l'ai dit, certains spectacles affichent déjà complet, mais il y a d'autres spectacles où les spectateurs pourront avoir accès donc, au théâtre. C'est le cas du premier spectacle, L'École des femmes de Molière, le vendredi 25 octobre. Nous avons également un magnifique ensemble de trio à cordes basé à Londres, l'ensemble Vélès, qui se produira le dimanche 10 novembre, donc un concert magnifique. Ils interprètent des chefs-d'œuvre rarement entendus, ainsi que des morceaux plus classiques. Nous avons également un très beau texte, un magnifique texte de Samuel Beckett avec la pièce « Fin de partie » qui aura lieu le 6 décembre donc au théâtre. Nous avons également doublé la pièce « Le mec de la tombe d'à côté », donc un succès littéraire planétaire de Katharina Mazetti. Il y a une séance supplémentaire, donc le samedi 18 janvier, où quelques places restent disponibles. Nous avons 2 belles pièces également, « A », d'après la compagnie « La Royal Breakfast », donc une pièce drôle et absurde, une comédie poétique également, le 24 janvier 2020, et puis une pièce vraiment poignante et passionnante, « Camille contre Claudel », d'après Hélène Zidi, donc le 31 janvier 2020.
Nouveau, abonnez-vous en ville, en ligne, mairie-glézé.fr, créez votre compte spectateur. Ou encore, recevez vos billets par courriel. Et pour conclure cette édition, avant-propos en compagnie de Bérangère Guédon, coordinatrice des rencontres du cinéma francophone Villefranche-Beaujolais-Saône, sur la 24e édition du festival, de nombreux films en avant-première et des invités professionnels du grand écran qui font le plaisir des spectateurs.
Oui, en tout cas, effectivement. Bon, c'est déjà une programmation un peu plus conséquente que d'habitude. On a 21 programmes. C'est la première fois qu'on a autant de programmes proposés. Après, sur l'armature en général, c'est le même principe que d'habitude. 8 films en compétition, mais qui sont 8 avant-premières. Donc là, voilà, c'est vraiment... c'est les films qui vont concourir pour le prix du jury spectateur sont montrés pour la première fois à Villefranche. Certains ont déjà eu des prix dans d'autres festivals internationaux. Ensuite, on a plein de séances spéciales, effectivement, avec des focus, notamment un focus sur le cinéma québécois et notamment le cinéaste Xavier Dolan, un focus sur le métier de reporter de guerre. Voilà, donc des rendez-vous une semaine très riche, en fait. Voilà, pendant 7 jours, je pense qu'il y a vraiment des rendez-vous nombreux. Et effectivement, oui, sur la programmation, des cinéastes à découvrir, des premiers films comme d'habitude, des mises en scène hors du commun, où le fantastique s'invite en effet, donc vraiment de belles découvertes.
Les rencontres du cinéma francophone Villefranche-Beaujolais-Saône du 11 au 17 novembre au cinéma Les 400 Coups à Villefranche. Demandez le programme autrecinema.fr. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.